Rayon BD, l'histoire par la bande. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture. Nous sommes aujourd'hui à Blois, à l'occasion des 22e rendez-vous de l'histoire, le grand festival d'histoire dont France Culture est partenaire. Depuis 4 jours ici, il a été question d'histoire, donc de toutes les périodes et de tous les continents, avec un accent particulier mis cette année sur l'Italie, le thème de cette édition. Question d'histoire, c'est-à-dire question de recherche, d'enseignement, de controverses, de publications scientifiques, mais aussi de fiction, littérature, cinéma, théâtre et bien sûr, bande dessinée. La bande dessinée historique, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Nous en parlerons en évoquant les lauréats du prix Château de Cheverny de la bande dessinée historique remis ici tous les ans depuis 2004. Le lauréat de l'année dernière, c'était Pascal Rabaté et nous sommes actuellement dans l'exposition des planches originales de La Déconfiture, paru chez Futuropolis, l'album en 2 tomes qui avait gagné le prix l'année dernière. Et tout à l'heure, nous retrouverons les lauréats de cette année, en deuxième partie d'émission. Le prix leur sera remis dans quelques instants. Les vainqueurs sont connus depuis quelques semaines, Florent Groisel et Youn Locard pour l'impressionnant Révolution, paru chez Actes Sud l'an 2, premier tome d'une trilogie. Et ce prix, Château de Cheverny de la bande dessinée historique, leur sera remis par notre invité, qui est le président du jury. Il fut l'un des premiers historiens à s'intéresser à la bande dessinée et à lui donner ses lettres de noblesse à l'université. Il fut aussi l'un des premiers à parler régulièrement de bande dessinée sur l'antenne de France Culture. Ça remonte, je crois, à la fin des années 80, dans le panorama de Jacques Duchâteau. On lui doit quantité d'ouvrages sur le sujet. Il est l'un des grands spécialistes français de la bande dessinée. C'est l'historien Pascal Horry. Bonjour, Pascal Horry.
Bonjour.
Nous sommes dans l'exposition Rabaté à la bibliothèque Abbé Grégoire de Blois. Rabaté, lauréat l'an passé du prix Château de Cheverny avec La Déconfiture. 2 tomes dans lesquels on suit sur les routes de la débâcle de mai 40 un groupe de soldats un peu paumés. Pourquoi est-ce que, là on est au milieu de toutes ces planches originales, pourquoi est-ce que La Déconfiture est une belle bande dessinée historique et répond au canon du genre ?
Pascal Rabaté représente tout à fait ce que nous aimons dans le jury, qui comprend une dizaine de personnes, des historiens mais aussi des artistes, hein, les lauréats des 2 précédentes années siègent dans le jury, ce que nous considérons comme la bande dessinée historique. Parce que quand en 2003, avec remise en 2004, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du premier prix, on m'a proposé, on est venu me chercher, et j'en ai rendez-vous pour présider ce jury, je leur ai dit « mais qu'est-ce que vous entendez par bande dessinée historique ?» Et ils m'ont répondu qu'ils n'entendaient rien de très particulier. Ce qui voulait dire qu'on allait définir la bande dessinée historique en marchant, en primant. Et dès la première année, 2004, on a couronné l'album Muchacho d'Emmanuel Lepage. Ça en a surpris quelques-uns, parce que c'était d'emblée une fiction historique. J'avais quelques années auparavant distingué, alors on peut ne pas être d'accord avec cette distinction, mais je crois qu'elle fonctionne pour comprendre ce que c'est que ce prix, la bande dessinée historienne, qui est pédagogique, qui va dire « je vais vous raconter la vie de Jeanne d'Arc ou la bataille de Stalingrad », avec beaucoup de méticulosité, et parfois un talent graphique ou scénaristique secondaire. On va être gentil pour certains. Et puis la bande dessinée historique, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est le choix la plupart du temps d'une fiction. Notre premier lauréat, Emmanuel Lepage, avait choisi de situer dans le Nicaragua de l'époque de la dictature de Somoza, en lutte contre les sandinistes. Donc c'était une histoire déjà du passé, mais d'un passé très proche, très chaud, très problématique sur le plan politique, avec une figure de séminariste issu de la classe dominante du Nicaragua et qui rejoignait les rebelles. Eh bien oui, c'était de la bande dessinée historique dans la mesure où il y avait un souci de précision, de contexte, c'est pas une question de bouton de guêtre, et en même temps, une vraie qualité d'abord graphique, il faut le reconnaître, et tout de suite après, scénaristique. Pascal Rabaté, c'est tout à fait ça. C'est un dessin qu'on peut qualifier de réaliste. D'ailleurs, pour les amateurs de bande dessinée qui nous écoutent, le trait de Rabaté a évolué. Moi, je l'avais qualifié aux premières années. On peut penser à Hibicus, d'après le grand roman d'Alexis Tolstoï, Alexis, pas Léon, d'expressionniste. Et l'expressionnisme, là, s'atténue considérablement. On est dans une logique du noir et blanc, et le fait que ce soit une exposition de planches originales, ça, nous y tenons beaucoup, et Sylvain Gache aussi, c'est capital, avec des effets d'ombre et de lumière, des effets de contraste, et un rendu des personnages qui n'est pas caricatural. on est parfois à l'extrême limite de la caricature, mais on ne tombe pas dedans. Et on est dans une empathie à l'égard des personnages. Et l'histoire s'y prête, puisqu'il s'agit de suivre le destin d'un Amédée Vidgrain. On va pas dire que c'est un Français moyen, parce qu'on se rend compte, par son cheminement normand, qu'on pourrait le qualifier presque d'intellectuel, mais qui se retrouve, parmi d'autres, plongé dans la débâcle de 1940. Et je le dis clairement, je l'ai dit à Pascal Rabatet, on a couronné après la sortie du tome 2. J'attendais le tome 2, à titre personnel. Ça n'engageait que moi, mais je pense que plusieurs membres du jury étaient. Parce qu'il y a une mythologie de la débâcle qui me paraît, alors là, historiquement très discutable, et je dirais même civiquement très discutable, à savoir la débâcle, ça a été l'effondrement d'une France qui s'est vautrée. Ce qu'on oublie, c'est que les combats ont été très courts, extraordinairement meurtriers, et que, effectivement, l'armée française s'est, entre guillemets, défendue. C'est pas simplement la déliquescence d'une société, parce que je rappelle que le thème de la déliquescence à l'occasion de la débâcle, c'est le grand thème de Vichy. Vichy ne demande que ça. Donc il y a une ambiguïté à dire, regardez, hein, Robert Lamoureux, non. Et Rabatet maintient le cap, à savoir l'ambiguïté, parfois l'équivoque, le fait que des personnages, ça c'est très subtil dans son scénario, qui paraissent grotesques ou antipathiques, finissent par se révéler éventuellement héroïques à leur façon, ou beaucoup plus complexes qu'il n'y apparaît. Son héros lui-même est loin d'être un super-héros. Ce n'est pas nouveau, les rares figures féminines sont plutôt des figures positives, là je crois que c'est très 21e siècle évidemment, le salut par les femmes. On ne manque pas de signaler l'importance des troupes coloniales, en particulier des Sénégalais qui sont les grandes victimes de cette affaire, parce que la propagande nazie, il faut le savoir, était absolument obsédée par ce qu'elle appelait la négrification de la France. Et c'est pour ça qu'on a tellement d'images, aujourd'hui dans les actualités cinéma, de Sénégalais qui tapent sur des boîtes de conserve. Ça a été tourné à la demande des Allemands, pour bien montrer dans les cinémas allemands à quel point la France était décadente. Pensons à ça quand on voit ces images. Donc bref, Rabatet s'en sort à mon avis très bien, et c'est tout à fait le type de lauréat que nous aimons.
Graphiquement, ces planches de Pascal Rabatet que l'on voit devant nous sont, vous l'avez dit, réalistes, sont très épurées, sont très claires, c'est du noir et blanc avec beaucoup de blanc, peu de paroles, et aussi une atmosphère très, très présente. Ça, est-ce que c'est quelque chose que la bande dessinée permet de donner, de rendre comme ça une atmosphère, quitte à ce qu'elle soit, enfin, un parti pris de l'auteur, que le travail universitaire, peut-être plus sérieux, a du mal à traduire?
Définitivement, nous sommes dans la fiction historique. C'est-à-dire qu'à la fois, on a la totale liberté, les artistes ont la totale liberté, on a couronné des albums complètement fous, à la limite, par rapport à la supposée exactitude historique.
Par exemple, est-ce que vous avez un...
Quand Jean Arambat a mis en bande dessinée les derniers chants de l'Odyssée, déjà, c'était une fiction sur une fiction, et il s'est payé le luxe de faire circuler ce récit, qui est déjà au second degré, voire au troisième degré, puisqu'on n'est vraiment pas des contemporains d'Ulysse, qui lui-même n'est qu'un personnage de fiction d'Homère, etc., avec le XXe siècle, le XXIe siècle, puisqu'on voit Arambat lui-même se dessinant, rencontrant Jean-Pierre Vernant, Jacqueline de Romilly, François Hartog. Donc ça c'est je ne dis pas effectivement que c'est fantastique, mais c'est très intelligent et ça joue complètement avec les repères. Bon. L'idée que l'histoire des êtres humains, l'histoire de l'humanité, ça comprend peut-être du matériel, mais aussi du sensible et du spirituel, maintenant est assez largement adoptée par les jeunes générations d'historiens. Du coup, la fiction historique peut être intéressante, mais elle est intéressante surtout, il faut le reconnaître, à un deuxième niveau. Où en est-on à un temps T, disons 2019, de notre regard rétrospectif sur une période? Donc, à ce niveau-là, on peut dire qu'on est très au clair. Une fois de plus, il ne faut pas que les lecteurs de bandes dessinées historiques, comme d'ailleurs de romans historiques, de films historiques, etc., considèrent qu'ils ont sous les yeux, qu'ils participent même, regardez ce qui se passe pour la Révolution française, avec ses mises en scène théâtrales participatives depuis Ariane Mnouchkine jusqu'à récemment, il ne faut pas qu'ils s'imaginent que c'était comme ça. Évidemment, c'était pas comme ça, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'intelligence sensible d'une époque.
Donc les historiens que vous êtes, que vous réunissez au sein de ce jury, ne sont pas là pour juger la véracité d'une œuvre. Vous avez tout à l'heure évoqué les boutons de guêtre, la précision absolue documentaire n'est pas non plus ce que vous recherchez. Qu'est-ce qui est le principal? C'est ce moment d'un regard sur sur une époque donnée, donc la façon dont le travail des historiens a pu être digéré par un auteur de bande dessinée qu'on considère alors comme un représentant de citoyens ordinaires.
Pas de bouton de guêtre, mais en revanche, la recherche de l'anachronisme véritable, qui est l'anachronisme non pas matériel, mais intellectuel. Il est évident que... un certain nombre de bandes dessinées, de romans, etc., n'hésitent pas à utiliser un vocabulaire qui est en fait anachronique, qui est le vocabulaire de 2019, par exemple, mais pas de 1719, et le vocabulaire renvoie à des mentalités, un système de représentation. Donc ça, on est assez vigilant. Mais pour le reste, vous savez, l'une des bandes dessinées les plus fantastiques qu'on ait couronnées était la plus méticuleuse dans sa reconstitution d'atmosphère aussi. Il ne faut pas imaginer qu'on va systématiquement chercher ceux qui font les pieds au mur. C'est le Fritz Haber de David van der Meulen, qui pour l'instant est resté inachevé après 4 volumes, ce qui est déjà pas mal, mais David van der Meulen en annonçait 7. C'est la biographie. C'est la biographie pure et simple, c'est presque un article de dictionnaire, d'un prix Nobel de chimie allemand, Fritz Haber. Vous pouvez ouvrir un dictionnaire ou regarder sur Internet. Il a existé, ce brave homme. Et c'est un album d'une force graphique vertigineuse, qui brasse toute la culture de l'époque. Hugo von Hofmannsthal, le style sécession, la montée du nazisme, tout y est. Et en même temps, c'est une biographie. Donc là, c'est vraiment un travail complètement graphique, complètement esthétique, complètement sensible et très intelligent, qui permet de faire avancer l'intelligibilité. Donc ce genre d'équilibre, on l'aime bien. Puis il y a des moments où on se paye le luxe. Par exemple, quand on a couronné il y a 2 ans... Pereira prétend, c'était une très belle bande dessinée qui elle-même était l'adaptation d'un roman d'Antonio Tabucchi se situant à l'époque de Salazar. Et donc il y avait 3 filtres successifs.
Est-ce que vous diriez, là on est encore devant ces planches de Rabaté et ce dessin réaliste, épuré, noir et blanc, pour la débâcle, est-ce que vous diriez, Pascal Horry, que certaines périodes historiques ou certains sujets sont mieux adapté à certains styles graphiques ou que certains styles graphiques doivent correspondre ou qu'il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne peuvent pas marcher.
Il y a certainement des grands écarts qui nous refroidissent. Il y a une manière de traiter le Moyen-Âge, par exemple. On a quand même beaucoup de mal à couronner des bandes dessinées se situant au Moyen-Âge.
Il y en avait une cette année dans la sélection avec Loé Cruchaudet, avec La Croisade des Innocents, par exemple.
Par exemple. Qui est nominé, mais qui n'a pas finalement été choisi. C'est vrai que, par exemple, le Moyen-Âge, pour des raisons que les historiens peuvent analyser facilement, prête à la fantasy, par exemple. Donc, la fantasy, elle joue sur des décors qui sont souvent des décors rétro, sans parler du rétro-punk, etc. Donc, là, c'est vrai que dans ce cas-là, on hésite un peu, on tord un peu le nez, et on a généralement à notre disposition des bandes dessinées qui s'envole un peu moins. Mais moi, je me rappelle qu'on avait hésité il y a quelques années sur une bande dessinée qui était dessinée de façon croquis simplifié, très moderne, qui se situait au Moyen-Âge et qui posait la question de Frédéric de Stauffen, de ce prince peut-être athée, mais était-on vraiment athée au Moyen-Âge, en tous les cas extrêmement libre par rapport à la religion chrétienne dominante dans le Saint-Empire romain germanique, réunissant dans les Pouilles, dans son fameux château des Pouilles, des sages venus également du monde islamique et du monde juif. C'était évidemment une sorte de rêve, c'est un peu comme le rêve de Cordoue, c'est-à-dire le mythe de Cordoue, mais ça allait assez loin, alors que le dessin, c'est sans doute pour ça que finalement ça n'a pas été primé, mais ça a été le à très peu de choses, le dessin nous tirait vers le 21e siècle. Bon, là, il faut généralement arbitrer, oui.
C'est étonnant quand même ce que vous dites sur le Moyen-Âge, puisque une des qualités, un des atouts formidables de la bande dessinée historique, c'est de produire des images sur des époques sur lesquelles on n'en a pas. Là, Rabaté, on a plein d'images de la débâcle de 40. On peut vérifier, mais ça fait écho à des photos qu'on connaît, à des films qu'on connaît, vous les avez évoqués. Pour le Moyen-Âge, la possibilité qu'ont ou qu'auraient des auteurs de représenter des cathédrales en construction, des villes telles qu'elles étaient à l'époque, avec beaucoup de documentation, c'est pourtant ça, une des forces de la bande dessinée historique, cette façon de produire des images qui frappent l'imagination et qui nous plongent vraiment dans une époque.
Bah, c'est la grande école de Jacques Martin et de ses successeurs, qui a touché aussi le Moyen-Âge, puisque Martin n'a pas dessiné que sur l'Antiquité. Mais
il y a Jehan.
Jehan, bien, et avec successeur d'ailleurs, c'est toujours présent parmi nous.
Est-ce qu'Alix, d'ailleurs, c'est une bande dessinée historienne ou historique ?
Historique, ah bah, complètement historique, et nous serions contemporains de Jacques Martin, on l'aurait sans doute couronné, évidemment. Et d'ailleurs, il faut préciser, j'avais eu l'occasion d'organiser, justement dans le cadre des rendez-vous de Blois il y a quelques années, une table ronde avec une série de scénaristes et de dessinateurs qui sont historiens de formation. Puisque l'histoire mène à tout à condition d'en sortir, et que en l'espèce, vous avez un certain nombre de brillants sujets dont la formation d'historien se reconnaît encore, comme chez Chris pour ce qui est du scénario, d'autres dans le domaine du dessin. Oui, nous avons eu la peine d'apprendre il y a quelque temps la mort de Franck Giroux. Franck Giroux sortait de l'école des Chartes, par exemple. C'était devenu un des grands scénaristes de la bande dessinée. Donc tout ça, ça peut se retrouver. Pour revenir sur la question des cathédrales qui se construisent sous nos yeux, je pense que ce qui nous séduirait le plus, et Jean Dittard, qui a été notre lauréat une fois, est tout à fait dans cette veine-là, ce sont des bandes dessinées qui essayent de se réintroduire dans la sensibilité graphique de l'époque.
Hein ? Vous parlez de celles qui reprenaient les miniatures afghanes, ou persanes plutôt.
Persanes, bien sûr. Donc une histoire persane en manière et en matière de miniatures persanes. Au fond, on n'a jamais rien fait de mieux que les deux superbes pages de Hergé sur la Cile d'Avis avec la miniature persane.
On a pu lire il y a quelque temps dans un article d'Ivan Jablonka l'idée que les historiens pourraient peut-être trouver à s'exprimer en bande dessinée autrement que dans des articles universitaires ou dans des ouvrages universitaires. Autrement dit, que la bande dessinée historique pourrait produire un savoir et qu'il faudrait que les historiens avec l'université s'y mettent, qu'on pourrait éventuellement avoir, sinon une thèse, au moins des masters d'histoire faits en bande dessinée. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Pascal Horry?
C'est une vieille histoire, puisque pour les thèses de doctorat, très tôt, j'allais dire dans ma très lointaine jeunesse, on se posait déjà, c'était après 68 quand même, la question de savoir si on ne pouvait pas soutenir sous forme de film. Ça se discute. À mon avis, on ne peut pas faire l'économie pour un travail d'historien d'une argumentation verbalisée, textuelle. Qu'en revanche, pour l'exprimer, on puisse recourir ici et là, au cœur même de ces argumentations, à de la mise en scène, puisque c'est quand même ça aussi la question, c'est la mise en scène, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que ça reste quand même le recours à une fiction historique. S'il s'agit de montrer des documents d'époque, aucun problème. Mais là, devant Rabatet, devant David van der Malen, devant Jean Guittard, devant Jean Arambat, etc., on est devant des artistes qui sont maîtres d'une fiction. Et je pense que le travail des historiens, c'est quand même de travailler au second degré sur ce que nous dit cette fiction sur l'époque où elle a été élaborée. Toute histoire est contemporaine et ces œuvres sont de 2018, 2019, 2017, 2015, etc. Et c'est ça qui compte pour nous. Elles ne sont pas du Moyen-Âge, elles ne sont pas de l'Antiquité, elles ne sont pas de l'époque de la Révolution.
Et on va voir avec les lauréats de cette année, Groisel et Locard, que leur révolution est bel et bien contemporaine. Elle a digéré un certain nombre de travaux d'historiens contemporains. Il est temps d'aller leur remettre le prix. Pascal Horry, c'est vous qui allez officier ?
Oui, au nom du jury, hein, qui comprend des représentants des quatre périodes de l'histoire, de l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et la période contemporaine. Et oui, j'aurai ce plaisir et cet honneur. Et puis, pourquoi nous appelons-nous d'ailleurs prix du château de Cheverny, il y aura la représentante du château lui-même, le château de Cheverny, voisin d'ici, et le mécène de ce prix, 3 000 euros, c'est pas négligeable dans le monde de la bande dessinée, même en général. Et pourquoi Cheverny ? Parce que tous les amateurs de bande dessinée le savent, qui nous écoutent en ce moment, Moulinsart ou Moulinsart pour d'autres, le château du capitaine Haddock a été dessiné par Hergé sur le modèle de Cheverny, auquel on a retiré, je dirais qu'on a allégé de ces deux ailes extrêmes.
Nous allons maintenant aller assister avec vous à la remise de ce prix, et puis juste après nous interrogerons Florent Groisel et Youn Locard, les lauréats.
À Madame de Vibray le soin de remettre ce prix.
Je suis heureuse de vous remettre ce prix pour trois raisons. La première, c'est que l'ironie de l'histoire fait que c'est moi, issue d'une des rares branches épargnées par le rasoir républicain, qui suis là aujourd'hui pour vous remettre ce prix du château de Cheverny. La deuxième raison, c'est que ce superbe écrin qui est ce château a toujours soutenu les talents. Aujourd'hui, le vôtre, bien sûr. Mais hier, lors de sa construction, celui des artistes, des architectes, des sculpteurs, des peintres qui ont réalisé des prouesses dont vous pouvez admirer les réalisations comme les millions de visiteurs qui viennent chaque jour leur rendre hommage. Et la troisième raison, c'est que c'est dans ce lieu que, miraculeusement, un diplomate a réussi, pendant cette période, à épargner le château du vandalisme républicain en invoquant des penseurs révolutionnaires qui ornent la façade principale du château et qui sont en réalité des empereurs romains.
Merci aux membres du jury qui nous ont plébiscité. C'est presque un poids que le monde de l'histoire se penche comme ça sur notre travail.
Florent et moi, donc on est auteurs de bande dessinée, ce qui veut dire qu'on ne fréquente pas du tout les salles d'archives, par exemple, ou les trucs comme ça. Et donc, on repose sur le travail des historiens à 100% pratiquement pour notre travail. Donc, on attend aussi la suite. Il va falloir bosser aussi les amis pour qu'on puisse continuer notre travail.
Florent Groisel et Youn Locard, vous venez de recevoir le prix Château de Cheverny de la bande dessinée historique et on vous exfiltre un petit peu du cocktail pour vous interroger quelques minutes. On était avec Pascal Horry ce matin pour parler un peu de ce que c'est qu'une bande dessinée historique et il nous disait une bande dessinée historique, c'est d'abord une fiction qui nous parle d'aujourd'hui, qui nous donne un regard d'aujourd'hui sur un moment, sur un événement historique. Est-ce que vous avez conscience, vous avez en tête de donner une vision de la Révolution qui est très contemporaine, Youn Locard?
Oui, c'est une vision qu'on partage complètement. Et si on a exhumé la Révolution française, c'est, je pense, une des raisons principales, c'est qu'il nous paraissait qu'aujourd'hui, on avait un besoin de ça, quoi. Donc c'était vraiment un dialogue avec l'histoire. Et maintenant, quoi.
C'est plutôt la dynamique, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce creuset, quoi, révolutionnaire, qui nous intéresse. Et pas tellement l'histoire de France, quoi.
Et donc pour écrire cette bande dessinée, écrire le deuxième tome que vous êtes en train de préparer, vous nous l'avez dit dans les discours, compulsé les travaux des historiens, les travaux les plus récents, des historiens français et américains, on pense à Timothy Tackett et d'autres. Votre œuvre, c'est tout de même d'abord une fiction. Comment est-ce que vous articulez toutes ces connaissances que vous emmagasinez? Comment est-ce que vous réussissez à en faire une fiction? Ça passe d'abord par les personnages que vous inventez?
Il y a un peu deux ingrédients dans notre manière de faire de la fiction. Il y a d'une part notre donc effectivement toutes ces sources et c'est notre sujet. La Révolution, c'est pas un décor derrière la vie de nos personnages. Et il y a de l'autre côté ces personnages quoi. Donc et ça c'est peut-être aussi plutôt quand on a commencé, on n'avait encore pas énormément de bagages historiens justement et on avait plutôt ces envies de personnages, des choses qu'on aurait pu raconter dans un tout autre contexte, quoi, des envies de parler d'un caractère, de montrer tel rapport entre deux personnages, enfin, des ingrédients de fiction pure, quoi. Et puis, comme disait Youn, l'histoire vient contaminer ça et vient se placer dans tous les petits interstices qu'on avait laissés libres entre les personnages et en fait, on a un truc complètement composite entre la partie documentaire et la partie invention d'une fiction romanesque qui aurait pu évidemment ouais, se passer dans un autre contexte en fait. Prendre les personnages et les plonger dans le grand bain d'huile de la Révolution et voir qu'est-ce qu'il advient quoi de ces gens sans forcément avoir déjà en tête ce qu'ils vont devenir, quel est leur destin. Et en fait, c'est drôle parce que c'est à la fois voilà, le ressort fictionnel par excellence, mettre un peu de suspense dans une histoire dont on sait déjà la fin. Mais à la fois, la Révolution, on n'en sait jamais vraiment la fin, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi par rapport au sujet même de ça. La dynamique révolutionnaire, elle est pleine de suspense, même quand on la regarde à deux siècles de distance. Parce que tout est dans une espèce d'indécision, tout se passe comme si ça allait basculer dans la seconde, quoi. Et c'est génial pour raconter une histoire. Et puis c'est exactement ce sentiment-là, je pense qu'on a essayé de... Enfin voilà, on tourne autour dans notre livre ce sentiment d'indécision et il faut prendre parti quelque part.
Quand on travaille sur la Révolution et qu'on fait de la bande dessinée, il y a aussi tout un corpus iconographique, puisque la Révolution a produit beaucoup d'images. Il y a des gravures, il y a les journaux illustrés. Comment est-ce que vous avez digéré toutes ces images ?
Ce qui est très intéressant en tant que dessinateur, c'est qu'en fait, on a un dialogue qui est vraiment de la main à la main avec les gens qui ont produit les images à l'époque, puisque c'est une période pré-photographique et qu'on n'a que des dessins. Et ça, c'est vraiment passionnant, quoi. Il y a vraiment une transmission. Et je pense qu'avec eux, on instaure en tant que dessinateur un dialogue avec les sources iconographiques que quelqu'un qui n'est pas dessinateur ne va pas du tout travailler de cette manière-là, quoi. On a une vraie proximité et une fraternité de travail avec les sources, ça c'est assez chouette.
Vous pensez aux peintres, mais aussi aux gens peut-être plus anonymes qui illustraient les journaux, les graveurs, les gravures qui circulaient partout. Ces dessinateurs, c'est pas toujours des gens que vous identifiez.
Ouais, c'est sûr, surtout que en fait la plupart des dessins, ils sont repris, regravés par quelqu'un d'autre et ils bougent et on les retrouve d'ailleurs un peu les cheminements des images qui à chaque fois qu'elles sont recopiées, le nombre de fenêtres sur l'hôtel de ville change un peu et tout. Et donc ça ça fait aussi partie de l'intérêt, le fait de devoir d'avoir des sources qui sont incomplètes, quoi.
Et alors vous avez mis combien de fenêtres à l'hôtel de ville? Enfin, est-ce que vous vous êtes posé cette question en disant tiens,
on n'a pas tracé les bâtiments à la règle. On a essayé de faire un truc qui soit juste, mais je pense que à nos yeux, par exemple, ça passait aussi beaucoup par d'imaginer, je sais pas, le quartier des Halles ou Paris en 1789. Pour moi, ça passait forcément avec ce que j'ai pu voir en voyageant du marché de Bangkok, par exemple. Il y a ça aussi. Il y a une recherche. Vu que c'est passé et que c'est mort, à quoi est-ce que aujourd'hui je pourrais rattacher ça pour comprendre et donc aussi bien les révolutions arabes que des voyages qu'on a pu faire, à Istanbul, dans des quartiers où il y a encore des artisans dans des beaux bâtiments comme ça et tout. C'est un mélange de tout ça.
Récemment, on s'est rendu compte que la marque de pinceau qu'on utilise a été fondée en 1793, quoi, à Paris. Les gens fabriquent des pinceaux, les mêmes que nous, on a dans les mains toute la journée. Depuis la Révolution, quoi, c'est intéressant de se dire qu'on partage les mêmes moyens de production, quoi. Ça a vraiment du sens pour nous de nous dire ça, quoi. Et que la bande dessinée, hein, finalement, peut-être... la prolongation, quoi, de cet art populaire de l'image et tout, qui rend compte des choses, qui se digère d'un dessin à l'autre. Nous, en fait, on est comme un graveur qui passe après, quoi. Donc le nombre de fenêtres qu'on met, ben, ce sera la base pour peut-être dans 200 ans des gens qui vont se demander à quoi ça ressemblait l'hôtel de ville en 1789, et ils auront notre bouquin. Et du coup, voilà, on s'astreint aussi à cette espèce d'honnêteté. On n'est pas tout à fait au pile poil, mais on n'est pas non plus des usurpateurs, quoi. Donc on fait le truc aussi bien qu'on peut, en se disant que les lecteurs, ils ont le droit à voir ça, quoi.
Merci beaucoup Florent Groisel et Youn Lokar. Et on attend le tome 2, vous l'avez annoncé, pour janvier 2022. Donc on va attendre, mais j'espère qu'on sera là pour vous recevoir à l'occasion du tome 2.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Le rayon BD au rendez-vous de l'histoire de Blois, c'est terminé. Vous pouvez bien sûr, sur le site de France Culture, franceculture.fr, réécouter et télécharger cette émission, une émission qui était, comme chaque semaine, préparée par Pascaline Bonnet et réalisée aujourd'hui par Thomas Duterre. Si vous aimez la Révolution, si elle vous intéresse en tout cas, sachez que le cours de l'histoire de Xavier Mauduit sera toute la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de demain, consacré à cette période. Les historiens Jean-Clément Martin, Pierre Cernat, Sophie Vaniche seront là, mais également aussi Florent Groisel et Youn Lokar, ce sera jeudi. Quant à nous, nous nous retrouverons dimanche prochain pour un tout autre sujet. Nous parlerons du comics Walking Dead. Mais dans quelques instants, restez à l'écoute de France Culture. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau pour le magazine de l'environnement de Cause à Effet.